19h-20h. Et les informer avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, ravi, c'est parti. Pendant une heure, durant une heure, nous sommes ensemble, bien sûr, pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Jusqu'à 20h, les informer, c'est ici que ça se passe, en toute liberté d'expression. Au menu, au sommaire, qu'est-ce que je vous propose, chers amis auditeurs? Eh bien, je vais parler, vous savez quoi, et de Damien Abad, ministre des Solidarités, qui est visé quand même par une enquête. Il est affaibli, hein? Il est affaibli parce que, bon, à se poser la question s'il ne doit pas démissionner. Eh bien, on posera la question à nos débatteurs, influenceurs, qui viendront confronter leur point de vue. Ensuite, nous nous intéresserons à Elisabeth Borne. Elisabeth Borne qui se retrouve fragilisée au sein de ce gouvernement, mais surtout qui a du mal à installer, si vous voulez, ses tractations au Parlement. On va en parler, on reviendra là-dessus, puisqu'il y a quand même beaucoup et pas mal de désaccords au sein de la NUPES. Et puis le Covid-19. Forte hausse des contaminations. Clochette. Oh mon Dieu. Ça y est, on veut nous mettre ça dans la tête. Mais bon, la question qu'on posera, c'est faut-il remettre les masques? Faut-il être prudent? Est-ce que le Covid-19 va pas venir gâcher nos traités? Moi, je pense que non, la vérité. Parce que la majorité, quand même, nous sont vaccinés. Mais bon, on va en parler avec les débatteurs, influenceurs. Et puis, des invités. Vous savez que c'est le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, dans quelques jours, la semaine prochaine précisément. Eh bien, ce que nous vous proposons dans les informer, c'est tous les jours, pendant 2-3 minutes, d'accueillir des personnalités de tous bords qui viendront nous dire un petit mot, évidemment, sur ce 60e anniversaire qui se prépare notamment en Algérie. Et puis, à 19h05, autre invité, notamment, nous parlerons de racisme. Un racisme, vous savez quoi ? Anti-asiatique. On en parle très peu. Et bien sûr, Beurre FM, nous allons recevoir l'invité tout à l'heure qui viendra nous en parler. À 19h30, c'est le grand Pascal Boniface et son billet d'humeur avec son regard aiguisé qui reviendra sur l'actualité de l'OTAN. Les informer, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informer avec Adil Farkan.
Allez, c'est parti, l'invité du jour, avant d'accueillir tout à l'heure les débatteurs influenceurs.
Les informer, l'interview.
Et l'interview, vous savez que Madame Messaoudi, bonjour Madame Messaoudi, écrivaine, féministe, dans l'âme, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir.
Qu'est-ce qui vous fait sourire, ma chère écrivaine?
Oh, il n'y a rien de très réjouissant quand on parle de la condition des femmes.
Parce que vous avez raison, vous avez raison.
À apporter et à améliorer.
Alors, Miassa Messaoudi, écrivaine, féministe, justement. Parlons-en, 60e anniversaire de l'indépendance, une année particulière pour l'Algérie, qui fête le 60e anniversaire, justement, de son indépendance. Et nous, aux informés, sur Beurre FM, nous avons décidé d'en parler. Vous êtes féministe, vous l'avez dit vous-même, hein. Et je sais que vous avez un attachement particulier aux conditions des femmes. Parlons-en. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que ce 60e anniversaire depuis l'indépendance, justement, les conditions des femmes, la place des femmes, le rôle des femmes, jouent aujourd'hui et comptent dans cet échiquier, évidemment, dans ce paysage du 60e anniversaire. On vous écoute, ma chère écrivaine.
Bah, la condition des femmes est plus que jamais d'acuité et très importante parce qu'il est très difficile de parler de la guerre d'indépendance à laquelle les femmes ont beaucoup contribué et ne pas rappeler ce qu'elles subissent en matière de droits et ou d'absence de droits quant à leurs conditions. Donc, lors de ce colloque qui se tient justement, comme vous l'avez rappelé, à l'occasion des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, je vais tenter d'apporter un éclairage sur la condition des femmes algériennes. Un éclairage qui ne peut être lisible et compréhensible que si l'on revient à la période coloniale pour questionner leurs conditions à cette époque-là.
Oui.
Alors, en 1881 a été adopté le fameux code de l'indigénat, un code qui posait de lourdes restrictions à la liberté de circulation et de réunion des Algériens. Ce code comportait aussi un volet traitant du statut personnel. Alors, sous prétexte des croyances et des traditions, les femmes ont été soustraites aux lois civiles de la République française et renvoyée aux lois de la charia, c'est-à-dire un patriarcat lourd qui a plombé leur émancipation. Le plus étonnant, que je vais relever pendant aussi ce colloque, est que les nationalistes algériens qui se battaient héroïquement pour libérer le pays du joug colonial et s'émanciper de ce code humiliant ont reconduit la partie qui concerne la famille, c'est-à-dire la répudiation, la polygamie, l'injustice successorale et le mariage des mineurs pendant la révolution et même au-delà, puisque ce code existe toujours, mais sous un autre nom. On l'appelle aujourd'hui le code de la famille. C'est-à-dire que les hommes s'étant libérés, mais empêche encore les femmes d'accéder à cette même liberté et dignité.
Madame Essaoudi, justement, je vous pose la question. Est-ce que, selon vous, évidemment, il y a encore du chemin à entreprendre, du chemin, évidemment, concernant, quand on parle des conditions des femmes, mais vous savez, quand je vous pose la question sur les conditions des femmes, elle est encore plus large, c'est-à-dire les femmes chefs d'entreprise, les femmes actrices hein, dans leur rôle au sein de la société algérienne, mais pas que, au-delà, encore plus large la question, je l'élargis en vous disant, que reste-t-il comme chemin concernant le rôle des femmes qui doit jouer, j'imagine, un rôle fondamental dans les années à venir?
En fait, les femmes sont empêchées, d'abord par ce code de la famille rétrograde qui les rend mineures à vie. Elles ne peuvent pas jouer un rôle plein dans la société malgré qu'elles représentent 60% des diplômés en Algérie. Mais elles n'accèdent qu'à un taux de moins de 17% au marché du travail. Donc, les femmes sont empêchées. L'Algérie, aujourd'hui, se prive d'un grand potentiel, celui des femmes, celui de l'apport des femmes dans les développements économiques, artistiques, sociaux, etc. Donc, par rapport au développement dans différents domaines artistiques, etc., vous avez parlé du théâtre, et c'est bien de le dire, mais il faut savoir aussi que ces outils de l'intellectuel en général et des femmes aussi en sont régulièrement détruits par une gouvernance qui ne donne pas sa pleine place à l'art. Et là, c'est la manière la plus ludique, la plus facile, la plus accessible pour changer les mentalités, les faire évoluer vers un développement qui pourrait lui permettre l'accès à la démocratie tant rêvée des Algériens.
Maïssa Messaoudi, écrivaine, féministe, dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce 60e anniversaire, qui se prépare pour le 5 juillet prochain, 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie?
Je souhaite que cet anniversaire soit celui du questionnement, de la remise en question, de l'affrontement des grandes questions qui se posent de manière pertinente, c'est-à-dire interroger l'histoire, interroger la condition de la liberté individuelle, des libertés individuelles, interroger la question de la diversité et surtout, et par-dessus tout, la condition des femmes. Parce que sans une égalité pleine devant la loi femmes-hommes, nous sommes vraiment et nous resterons très loin du but. Donc j'espère que ce sera l'anniversaire du renouveau.
Merci. Merci, ma chère Maïssa Messaoudi, écrivaine, féministe. Au plaisir de vous retrouver sur l'antenne des Informés sur Beurre FM.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
Merci avec plaisir. Évidemment, nous allons continuer à vous faire vivre toute cette semaine, jusqu'à la semaine prochaine d'ailleurs. Et les Informés sont aux côtés, évidemment, de ce 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Donc, nous serons évidemment présents et on recevra différentes personnalités. Autre invité, je vous le disais tout à l'heure pendant le sommaire, en exergue, justement, il s'agit de Soun Lam. Bonsoir, Soun Lam.
C'est Soun Lam. Bonsoir à tous.
Je croyais qu'on disait Soun, pardonnez-moi. Soun Lam.
Ce n'est pas grave.
Vous avez bien raison. Vous êtes, vous, d'origine vietnamienne. Vous le disiez, vous le dites vous-même. Et vous êtes mon invité dans Les Informés parce que, justement, vous m'avez interpellé sur une question qui vous est chère, notamment la lutte contre le racisme anti-asiatique et des 50 ans de la loi, donc Plevel, et le MRAP aussi qui est à vos côtés. Alors, parlons-en justement, mon cher Soun Lam, vous représentez qui, le MRAP?
Moi, je suis surtout ici pour représenter moi-même, puisque je suis au carrefour de plusieurs associations antiracistes, Il y a le MRAP, évidemment, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples. Et là, je voudrais saluer mon ami Kaltoum Gashi, qui est la vice-présidente du MRAP. Et je suis aussi dans plusieurs autres associations, à savoir SOS Racisme, Touche pas à mon poste. Et là, je voudrais saluer deux personnes, Dominique Sopo, le président d'SOS Racisme, et celui qui a été mon avocat pour cette association, à savoir Maître Romain Ruiz, et enfin l'ALICRA, avec Maître Karine Altman, que je salue au passage également.
Alors dites-moi, mon cher Sun Lam, justement, quand on parle du racisme anti-asiatique, expliquons à nos auditeurs, qu'est-ce que vous entendez par là, justement? On en parle très peu, hein?
Ben justement, c'est parce que on en parle bien peu que je voudrais médiatiser ces faits de racisme, puisque nous avons une nouvelle génération d'Asiatiques qui parle de plus en plus de ces problèmes-là, et c'est à juste titre, puisque il n'y a rien de pire que l'omerta. La loi du silence, c'est la double peine. D'abord, on est victime du racisme, et ensuite de la différence. Moi, je veux briser cela, et je compte évidemment sur vous, et je sais que vous êtes de bons journalistes.
Comment lutter justement contre le racisme en direction des Français d'origine asiatique, ou des Asiatiques tout court? En France, vous savez que évidemment, le racisme anti-asiatique, c'est un phénomène, hein, un phénomène évidemment mal identifié d'ailleurs, mais il est bien réel. Alors parlons-en justement, qu'est-ce que vous comptez faire pour endiguer cela?
Eh bien, pour combattre le racisme, il faut s'y prendre de façon méthodique et à procéder par étapes. La première étape, c'est d'abord la sensibilisation, c'est-à-dire qu'il faut enseigner aux gens, aux personnes asiatiques et non-asiatiques, ce qu'est le racisme. Car beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, ils sont racistes sans même s'en rendre compte. Donc, il faut sensibiliser. Et pour cela, c'est l'éducation, c'est l'école. Oui. C'est à l'école que ça se fait, en plus de la famille. Et deuxièmement, la deuxième étape, après la sensibilisation, c'est la mobilisation. Il faut mobiliser les membres des associations et la société civile pour qu'ils aillent au contact des victimes. Parce que vous savez, quand une personne est victime, et même si elle est sensibilisée et elle sait ce que c'est que le racisme, certaines personnes ne vont pas porter plainte. Ils ne vont pas dénoncer leurs maux d'eux-mêmes.
C'est pour ça d'ailleurs des chiffres. C'est pour ça d'ailleurs
qu'il faut les aider.
C'est pour ça que Sun Lam, on manque de chiffres d'ailleurs. C'est parce qu'il faut les pousser à porter plainte. Justement, Sun Lam, des agressions sont en augmentation, hein, justement. Je dis cela parce que on a quand même 37% des immigrés du sud-est asiatique qui sont victimes de cela, 54% de leurs descendants déclaraient avoir vécu une situation raciste au cours de leur vie, mais surtout, Sun Lam, c'est que depuis plus de 10 ans, le phénomène s'est aggravé. C'est-à-dire que la virulence des propos haineux et des agressions, hein, remontées par vous-même, des associations, se sont multipliées.
Oui. Eh bien, cette augmentation peut s'expliquer par le contexte politique délétère. Vous voyez bien que la montée, la percée de l'extrême droite et des thèmes xénophobes et racistes dans le débat public y est pour quelque chose. Et la deuxième raison fondamentale, au-delà du contexte politique, c'est le moment historique que nous sommes en train de vivre. Vous voyez, depuis qu'il y a la crise du Covid...
C'est ça, l'épidémie est venue provoquer de nouvelles stigmatisations.
Voilà, vous avez compris. Le problème, en fait, de chaque crise mondiale, que ce soit le Covid ou la guerre, c'est que les êtres humains, et ça c'est humain, cherchent une explication. Il y a des gens qui croient dans la science et qui ont des explications rationnelles.
Parce que vous voulez dire
par là que... Si on n'est pas rationnel, les gens parfois cherchent des boucs émissaires.
Parce que vous...
Et l'Asiatique est le bouc émissaire idéal, malheureusement.
Parce que vous voulez dire par là que l'image est associée au régime chinois qui est soupçonné de dissimulation, c'est ça?
Alors, vous faites bien de parler de cela, mais vous savez, on peut défendre les Asiatiques et on doit les défendre. Mais je suis très ferme concernant le régime chinois que je condamne très fermement. Et vous savez pourquoi? Et là, je vais m'adresser aux auditeurs de Beurre FM. Vous savez pourquoi je condamne le régime chinois?
Oui, dites-nous.
Alors, d'une, je suis étudiant en géopolitique, donc je sais ce qui se passe là-bas avec le tournant autoritaire. Mais deuxièmement, là, je m'adresse à nos auditeurs qui peuvent être musulmans pour la plupart. Oui. En Chine, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un génocide contre la minorité ouïghour. Et il y a un massacre terrible des Chinois musulmans notamment du Turkestan oriental. Et il faut mobiliser, parce que vous savez, moi je suis de ceux qui disent qu'on ne peut pas être antiraciste à sens unique. Évidemment, il faut dénoncer les agressions contre les Chinois, mais il faut aussi dénoncer les agressions contre les musulmans. Ils sont persécutés dans le monde. Je parle des Ouïghours en Chine, mais on peut aussi, dans le combat antiraciste, parler des Rohingyas en Birmanie, qui sont aussi une minorité musulmane persécutée. Donc il faut se battre contre toutes les formes d'intolérance, que ce soit des intolérances raciales, ethniques ou encore religieuses. Le combat antiraciste est un combat total. Et c'est aussi un combat pour l'émancipation des minorités, comme par exemple les homosexuels ou encore les chrétiens persécutés, par exemple. Toutes les persécutions doivent être l'objet de notre combat.
Un dernier mot, une dernière question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs qui vous écoutent partout en France, Son Lam?
Eh bien, je veux simplement leur dire que l'antiracisme est le plus beau des combats. Mobilisez-vous, car c'est dans la lutte que se trouve la dignité de l'homme. Et je dirais cela aussi, une mise en garde, quand vous êtes antiraciste, vous avez beaucoup d'obstacles sur votre chemin. Parce que, moi par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai dénoncé le racisme qu'il y avait en Chine contre les musulmans, et notamment contre les Ouïghours, il y a énormément de membres de la communauté chinoise qui m'ont insulté et qui m'ont dit que je faisais du racisme anti-asiatique. Et c'est d'autant plus absurde que j'ai moi-même été victime d'un élu LR qui s'appelle Eddie Denis et qui m'a traité de chien, enfin de mangeur de chien et de sale niaque. Donc quand vous êtes antiraciste, battez-vous contre les racismes, mais battez-vous aussi contre les antiracistes qui se trompent et qui se trompent de cible en faisant du communautarisme. Soyez universaliste et battez-vous pour toutes les communautés.
Vous avez
parce
bien.
Que, comme dit Jean Jaurès, et là je termine par cette citation, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine.
Vous avez bien raison. Je suis complètement d'accord avec vous, Son Lam. Vous avez bien raison
voilà,
de le rappeler.
Eh bien, merci. J'invite nos auditeurs à méditer cette phrase et battez-vous surtout.
Vous avez représenté, donc vous étiez notre invité. D'abord, vous représentiez le MRAP sur la question du racisme anti-asiatique et des 50 ans donc de la loi Pével. Merci d'avoir été avec nous, Son Lam, et au plaisir évidemment de
vous. Je vous en prie. Et si vous voulez parler à Kaltungashi, n'hésitez pas, on peut se contacter et je peux vous passer ses coordonnées, comme ça vous allez l'interviewer. Vous avez déjà interviewé Kaltungashi ?
Oui, bien sûr, à plusieurs reprises, ils sont chez eux ici, hein, vous savez. À vos plaisirs, Son Lam, à bientôt.
À bientôt et merci.
19h18, allez, avant de retrouver nos amis débatteurs, influenceurs qui sont là. Je lance la première pub et on se retrouve tout de suite après avec Philippe Nadjiboyaki et Ménade. Vous savez que j'ai failli oublier votre prénom. J'étais à deux doigts de vous oublier. Allez, tout de suite. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
C'est parti pour le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
L'ancien élu de Rony Soubois, il est avec nous, consultant numérique, Ménade Ouchenir. Bonjour.
Bonjour Adil.
Comment ça va?
Ça va et vous?
Très bien. Face à vous, c'est le conseiller régional qui baille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous baillez?
J'ai faim.
Ah, vous avez faim?
Il y a deux raisons. C'est
attendez, on va vous ramener du sucre.
Soit t'as sommeil. Non.
Soit t'as faim, soit t'as sommeil. Alors vous avez quoi? Les deux?
Oui, aussi.
Aussi. Aussi. On peut lui ramener un plat de pâtes?
Non,
on va vous préparer ça. Philippe Nadjiboyaki. C'est parti, messieurs. Je voudrais évidemment qu'on parle de Damien Abad. Damien Abad, qui est le ministre des Solidarités, vous savez, il est visé par. Une enquête pour tentative de viol. La plaignante, elle, accuse le ministre d'avoir tenté de la violer lors d'une fête organisée à Paris. Ça se passait en 2010. Sauf que Damien Abad, aujourd'hui, bon, ministre en sursis ou pas? Ah, bon, la question se pose. Doit-il démissionner? Est-ce qu'il est en sursis? Clairement, qui veut prendre la parole? Ménade Ouchenir.
Présomption d'innocence, Adil.
Ça y est, clochette, tout de suite.
Allez. Pourquoi on commence pas par le début?
Maintenant, toujours, on brandit, tu sais, on brandit la présomption d'innocence.
Mais vous imaginez vers quoi
mais vous avez raison.
Vous avez imaginez raison. Vers quoi on va. C'est-à-dire qu'effectivement, demander à quelqu'un de démissionner,
vous
sitôt
avez
les premières accusations. Non, il y a ces femmes qui, effectivement, se sont exprimées. Donc, à elles de porter plainte. Il y aura effectivement la justice, alors qu'il peut être lente, on peut leur reprocher plein de choses, mais elle fonctionne encore. Mm-hmm. Et à ce moment-là, effectivement, quand la justice aura tranché, il s'agira d'en tirer les conséquences. Mais sinon, on va vers un système assez... dangereux, y compris pour la stabilité de notre gouvernement et par extension du pays, parce qu'on va avoir derrière, à la moindre accusation, un tribunal populaire et médiatique qui va demander aux uns et aux autres de démissionner. Alors, s'il est coupable et qu'il démissionne avant, bon, bah, on aura gagné un peu de temps, mais imaginez qu'on prouve son innocence à la fin et qu'il est démissionné. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on répare?
Ouais, mais est-ce que ça vient pas entacher le gouvernement?
Bien
sûr. Parler de ça, évidemment.
Mais il y a eu des histoires avant. Il y avait eu Darmanin, il y avait eu même dès 2017 avec Bayrou, il y avait eu pas mal d'affaires auparavant. Essayons de rester quand même assez loyaux envers les institutions. On a quand même des institutions dans un pays avec des institutions qui fonctionnent et de se dire que il s'agit de les faire fonctionner et en l'occurrence la justice.
Donc, et ne pas succomber au tribunal
populaire. Celles qui n'ont pas encore fait, effectivement, on les encourage à aller porter plainte et de façon à ce que derrière une instruction soit déclenchée. Hein. On est aussi dans un pays où les ministres peuvent être faire l'objet d'instructions. On a la Cour de la justice de la République. On a pas mal de choses qui font que les ministres sont aussi considérés comme des justiciables. J'allais dire. Comme tout le monde, lançons, utilisons les outils à notre disposition et le plus tôt et le plus rapide sera le mieux. Mais pour ma part, démissionner avant qu'il y ait une quelconque culpabilité d'établie, effectivement, ça me paraît être une pardon.
Ah bah tiens, je vais voir ce qu'en pense Philippe Nadji Bouriaki.
Alors moi, je suis pas d'accord.
Ouais.
Non, mais je peux être que d'accord, effectivement. Adil, et moi, c'est le terme exact, dire je suis bien placé, non, mais je peux tout à fait comprendre. La position des victimes et je l'ai dit sur votre antenne, même mon bourreau a le droit à la présomption d'innocence. C'est l'article 9 de la charte des déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée, qu'elle n'est pas reconnue coupable. Il y a en France un truc qui s'appelle la justice. Il y a la police qui enquête sur ordre d'un magistrat. Il y a une enquête qui est faite et puis après il y a un jugement ou un classement. Et c'est ça qui doit faire foi et loi à nous tous et à nous toutes. Parce que si ça ne fait pas foi et loi, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Moi,
vous pensez vraiment que c'est la porte ouverte?
Ben ouais. Je suis comme vous, Adil. On a tous les deux une carte de presse. D'accord? On est couvert par la charte de Munich. La charte de Munich dit que l'article 7 de la charte de Munich fait que personne ne peut nous obliger à révéler nos sources. Supposons que j'ai un différend avec vous. Et en vérité, je n'ai aucun témoignage. Je peux dire que mes témoins veulent garder l'anonymat pour raison de sécurité et sortir une affaire qui n'existe pas. Et là, vous allez perdre votre travail, vous allez perdre votre dignité, vous allez vous faire huer pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Donc il y a un truc qui s'appelle la justice, elle peut être mal faite, elle peut être déficiente, alors donnons-nous des moyens de pouvoir avancer. Et ce qu'on peut dire, en tout cas aux victimes ou aux plaignantes ou aux plaignants, c'est immédiatement de faire les constats, immédiatement de déposer plainte, immédiatement d'alerter, immédiatement de faire les analyses, puisque là, visiblement, elle dit qu'elle a bu un verre et qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle se retrouve... mais il y a des... À titre personnel, je crois que c'est pour ça qu'on est là et qu'il faut aussi donner son impression, au risque de se faire huer par des ultra-radicaux comme Sandrine Rousseau qui dit à chaque fois qu'il va venir à l'Assemblée, on va foutre un bordel pas possible. Il y a un règlement intérieur, donc il peut se faire exclure de l'Assemblée et avoir des pénalités. Donc je rappellerai que dès qu'on va commencer à toucher à son porte-monnaie, Sandrine Rousseau, rapidement, elle va se calmer. Et si elle était aussi pointue et aussi férue que ça, elle aurait fait en sorte que Nadera soit députée et que Alice Coffin soit députée. Mais visiblement, sa priorité passe avant tout le monde.
Il est 19h30, je vous interromps tout de suite parce qu'on va passer juste au Quoi de Neuf. Comme tous les jours, le Quoi de Neuf. Et comme dit, évidemment, comme tous les jeudis, c'est Pascal Boniface, le patron de l'Eris. C'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Pascal Boniface, bonsoir, mon cher Pascal. Bonsoir, on vous entendait pas.
Bonsoir, moi je vous entends parfaitement.
Ah pardon, voilà, vous êtes en direct. Mon cher Pascal, le patron de l'IRIS, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur concernant le sommet de l'OTAN, on vous écoute.
Oui, le sommet de l'OTAN vient de se terminer à Madrid, et c'est un triomphe pour l'OTAN. L'OTAN n'a jamais été si bien portant, si solide, et celui qui a ressuscité l'OTAN, c'est Vladimir Poutine. Si on se remet un petit peu en arrière, en novembre 2019, Macron dit que l'OTAN est un état de mort cérébrale.
Absolument.
Et pendant ce temps-là, Donald Trump disait que l'OTAN était obsolète, qu'il fallait passer à autre chose, et les pays européens, même les plus pro-américains, commençaient à s'inquiéter. Et puis Poutine a déclaré la guerre, et je dirais que tout est rentré dans l'ordre, et que désormais les Américains sont de retour, que deux pays, la Suède et la Finlande, la Suède neutre depuis deux siècles, la Finlande depuis 1945, qui n'avait pas jugé bon d'adhérer à l'OTAN pendant que Staline était au pouvoir, que Brejnev était au pouvoir en URSS. Et voilà, ben il trouve vraiment urgentissime d'adhérer à l'OTAN parce que la peur a saisi. les pays européens suite à l'agression russe de l'Ukraine. Et donc on peut dire que Poutine a joué les apprentis sorciers. Il a fait exactement l'inverse de ce qu'il voulait obtenir, parce que bah, tout le monde se dit il faut que les Américains nous protègent. Et puis, hein, ça va un peu plus loin. Tous les pays européens augmentent leurs dépenses militaires. On va peut-être voir au bout d'un certain temps, est-ce que c'est vraiment si utile? Est-ce que c'est vraiment la priorité?
Oui.
Parce qu'il y a quand même d'autres problèmes aussi qui existent. Et puis maintenant, et ça sera le prochain défi, c'est que Joe Biden voudrait que l'OTAN s'occupe de la Chine. Alors, OTAN, c'est Organisation du traité de l'Atlantique Nord. La Chine n'est pas dans l'Atlantique Nord. L'OTAN est une alliance militaire. Est-ce que la Chine menace militairement les pays de l'OTAN? Non. Du moins, aucun des pays européens. Et le grand défi de Biden, c'est d'engager les pays européens dans cette croisade anti-chinoise. Et il faut faire attention de ne pas faire de l'OTAN une sorte d'alliance du choc des civilisations qui, à force, ferait ce qu'on appelle des prophéties auto-réalisatoires. À force de dire que la Chine est l'ennemi, elle pourrait le devenir réellement. Et que les leçons qu'on n'a pas tirées par rapport à la Russie, il faudrait mieux les anticiper par rapport à la Chine.
Vous avez complètement raison, et c'est bravo pour cette analyse, évidemment, mon cher Pascal Boniface. On vous retrouve semaine prochaine, vous êtes toujours parmi nous?
Bah, bien sûr, avec plaisir.
Avec grand plaisir partagé, mon cher Pascal Boniface, le patron de l'IRIS. Prenez soin de vous, à jeudi prochain.
Merci.
19h34, bonne soirée. Nous allons marquer la dernière pause pub et on se retrouve avec Philippe Nadjiboriaki, avec Ménade Ouchenir et le 01-53-48-3000 si vous voulez réagir. Passez à l'antenne et on reviendra parler d'un second sujet. C'est celui d'Elisabeth Borne qui se dit, enfin pas qui se dit, il se dit qu'elle est de plus en plus fragilisée, puisque, évidemment, les désaccords prennent forme au sein de la NUPES. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Philippe Nadjiboriaki, Melad Ochenir qui sont avec nous, justement, 01 53 48 3000, le jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Justement, on vous donne la parole parce qu'on va parler des contradictions d'Elisabeth Borne. Est-ce qu'elle est vraiment fragilisée? Parce que c'est vrai qu'il se dit de plus en plus que Elisabeth Borne peut-elle rester à Matignon ou quitter Matignon? Est-ce qu'on peut parler d'ores et déjà d'un divorce avec la NUPES? Tiens, les spécialistes de la politique, Ménade Ouchenir.
Il y a une schizophrénie.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Effectivement, parce que lorsqu'on a un Premier ministre volubile qui l'ouvre et qui gueule, Valls par exemple, à son époque, effectivement, on disait oui, mais est-ce qu'il va tenir comme ça 5 ans, etc. Maintenant qu'on a une ministre qui est un peu plus, entre guillemets, calme, peut-être oui, plus technocrate dans les faits, et puis qui m'a l'air en tout cas de bosser, mais est-ce que c'est pas ça, effectivement, qu'il faut? Il a laissé bosser le temps. Alors, je sais pas comment.
Non, est-ce qu'il faut pas un profil plutôt politique peut-être?
Mais est-ce que on les a eu les profils politiques où on en est? Est-ce que c'est pas justement un profil comme le sien maintenant qu'il faudrait? Je sais pas comment on va s'en sortir avec son futur gouvernement.
Non, mais on parle déjà de divorce avec la NUPES.
Mais la NUPES, elle a explosé le lendemain du second tour. Il y a pas de groupe NUPES.
Mais comment
nationale.
Vous voulez faire alliance avec une première ministre si ça fonctionne pas au Parlement?
Mais il y a des groupes.
Ça va bloquer en permanence.
LPS,
ça va être un joyeux bazar.
Pourquoi pas? Mais au moins,
pourquoi
c'est une configuration qui va obliger la coalition, qui va obliger la discussion, le consensus. On en avait parlé juste avant le second tour des élections législatives. Ça va obliger les gens à se parler. Alors, on n'est pas des Allemands, on n'est pas dans la culture de la coalition, on n'est pas au Parlement européen non plus. Eh ben, c'est pas plus mal que ça fasse un peu évoluer la politique française dans la chambre basse.
Philippe Nadjiboriaki.
C'est une très belle transition. Justement, j'allais brandir, moi, le Parlement européen. Il n'y a personne qui a la majorité au Parlement européen. Pourtant, il y a des textes qui sont votés et on voit que les groupes, selon leur sensibilité, votent ou ne votent pas tel ou tel texte. Donc ça va obliger effectivement à faire ce qui était prévu à la base à l'Assemblée nationale.
Est-ce qu'elle peut rester à Matignon?
Le problème, c'est que je vois pas qui la remplacer aujourd'hui.
Ça, on remplace par qui?
Voilà, l'objectif était de mettre une femme.
C'est pas vous qui aviez dit d'ailleurs, Valérie Pécresse?
J'ai proposé le.
Qu'est-ce que j'ai eu énormément de retours vous concernant?
Alors.
Ah, vous êtes fait lyncher.
Ah bon?
Par les auditeurs. Ah, ils ont dit, comment il a pu oser quand même parler de Valérie Pécresse?
Mais Tout simplement.
J'ai oublié de vous le dire. J'ai reçu énormément de messages vous concernant. Parce que vous avez osé parler de Valérie Pécresse. Et pourquoi pas? Mais voilà.
Mais pourquoi? Qu'est-ce que
vous leur répondez à tous ces messieurs, justement, qui nous écoutent peut-être ce soir?
Je leur réponds. Il faut voir les impératifs qu'on nous met. On nous met. Il faut une femme. D'accord. Donc à ce moment-là, vous sortez. Vous savez, c'est le jeu qui est-ce? On vous dit, est-ce quelqu'un a un chapeau? Non. Et vous baissez. Donc une femme, vous mettez toutes les femmes qui peuvent accéder à ce poste-là. Et donc après, vous rajoutez quelqu'un qui a déjà eu des responsabilités, quelqu'un qui a une bonne gestion ou qui sait faire. Effectivement, quand tu baisses tout, il reste qui? Il reste Ségolène Royal et Valérie Pécresse. En vérité, si tu fais le diag là-dessus.
Il y a l'hypothèse aussi Nathalie Kosciusko-Morizet à l'époque, qui cochait aussi toutes les cases.
Bien sûr, femme, avec une
fibre écologique importante,
oui,
expérience ministérielle,
oui, c'est pas faux,
dimension internationale.
Pas techno, politique.
Les deux, il y a un peu des deux quand même. En plus, avec Borloo, le Grenelle de l'environnement, on en a des femmes.
Oui, on en a, mais.
Dans le paysage politique français.
Quand tu mets sur le papier, il y en a une qui a accédé aux responsabilités de la plus grande région et la plus riche d'Europe, qui est l'Île-de-France, et c'est Valérie Pécresse. Et sur son bilan, franchement, même s'il y a des choses sur lesquelles je suis pas entièrement d'accord, mais sur la 80%, elle fait des choses ultra positives. Donc sur le papier, si tu dois mettre une note, à la fin, c'est elle qui récolte le plus. Je ne sais pas qui choisira et ce qu'il fera, mais l'impératif qui nous était donné, c'est allez, on fait un gouvernement avec une première ministre. Et dans ces cas-là, celle qui récolte la meilleure note, elle s'appelle Valérie Pécresse, et il n'y a pas d'autres à son niveau actuellement. Mais tu as raison, tu avais Nathalie Kosciusko-Morizet, on aurait pu dire.
Alors, est-ce qu'elle peut rester alors?
Nathalie, Chantal Jouanneau,
bien sûr.
Le paysage politique français alors, ne manque pas.
Concernant Isabelle.
Le profil.
Oui, mais il faut aussi qu'elle puisse incarner une vision, incarner la vision du président de la République, parce que tu vas pas mettre, hormis dans une histoire de coalition, pas de coalition, mais de cohabitation, où t'as pas vraiment le choix, puisque t'as pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et là, sur le coup, quand on, je redis, et j'espère que j'ai pas trop heurté vos auditeurs.
Non, ça fait débat.
Et je suis sûr qu'ils sont ils font preuve de pragmatisme. Lorsque tu es dans une situation où t'as besoin d'avoir une alliance et la plus naturelle, ou en tout cas pour le gouvernement, ça serait une alliance avec les LR et l'UDI, et ben celle qui pourrait cocher les cases et te ramener cette force des LR-UDI, elle s'appelle Valérie Pécresse. C'est juste.
Est-ce qu'elle ferait un meilleur travail en tant que Premier ministre qu'en tant que présidente de la région Île-de-France? La région Île-de-France, elle a quand même été brillamment réélue. Elle a quand même un bilan dont elle n'a absolument pas à rougir.
Akil Mellouli, notre ami Akil Mellouli, te dirait le temps est l'ami du juste. Donc moi, je suis pas devin. Je ne sais pas si elle pourrait faire un meilleur travail en tant que première ministre, pardon, lapsus, que
c'est
présidente
pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose.
Présidente de région, et elle est présidente d'un micro-pays qui compte 12,5 millions d'habitants. Et donc, c'est une force de frappe assez extraordinaire. Mais c'est vrai, c'est d'autres fonctions, c'est différent. Mais ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Visiblement, là, aujourd'hui, le président, je ne sais pas s'il se destine à ça. Et puis, elle n'est pas présente. Valérie Pécresse, depuis hier, est en Ukraine pour signer des partenariats avec Kryvyi et une autre grande ville, mais sur la région, en tout cas, de Kiev, puisque on avait voté au dernier conseil régional une aide d'1 million d'euros. Elle a ouvert l'hébergement dans les bases de loisirs, dans les îles de loisirs qui sont propriété de la région, l'hébergement pour les réfugiés ukrainiens. Donc elle continue en tout cas sa démarche d'aide et d'accompagnement vers un peuple qui est en train de souffrir actuellement, pendant que voilà, nous on est là, c'est pas de notre faute, mais la main tendue, elle va jusqu'au bout de l'accompagnement. Donc est-ce que c'est déjà un flashback sur ce qu'elle pourrait faire dans les semaines à venir?
Alors, allez-y, Ménade.
On parle de Madame Pécresse, mais c'est effectivement Elisabeth Borne, effectivement, le sujet initial. Moi, je pense qu'on devrait faire montre d'un tout petit peu de patience. Moi aussi, je suis très curieux. Avec une grande neutralité.
C'est une histoire de deux semaines.
Mais effectivement, faire montre d'un tout petit peu de patience. La situation, elle est quand même assez inédite dans la Ve République. Et je pense que l'impatience, ça peut aussi, d'une certaine manière, influencer des mauvaises décisions. Donc, si, dans l'absolu, les gens pouvaient être un tout petit peu plus patients, moi, je vais attendre de voir aussi ce qu'elle va nous sortir en termes de casting. Mais, à mon avis, sur ce quinquennat, c'est comme mon humble avis, on va mieux chercher des coalitions sur des textes précis qu'une coalition gouvernementale.
Autre question concernant Elisabeth Borne, est-ce que le fait d'être fragilisée, justement, Elisabeth Borne, est-ce que ça ne fragilise pas, y compris le président, le chef de l'État?
Pourquoi? Elle n'a pas terminé. Le boulot, il est en cours.
Elle vient juste de commencer.
Le gouvernement, pour le moment, on va pas dire que
c'est pas bon avant que vous ayez servi.
Vous trouvez que le gouvernement gouverne en ce moment?
Il n'y a pas eu de conseil des ministres depuis
plusieurs jours. Tout est gelé.
Ça va. Oui.
Pas de conseil.
C'est au ralenti.
Pas de conseil des ministres.
Oui, c'est au ralenti.
Non, c'est pas au ralenti. Il n'y a rien qui est décidé pour le moment.
Oui,
effectivement. Bah c'est la vérité.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais rien ne pouvait
être gelé.
La situation est inédite.
Non, mais rien ne pouvait être décidé. Moi, je vous rappellerai qu'en 2016, vous vous rappelez le temps qu'ils ont mis avant de faire le gouvernement. Là, quand il a gagné, le président, il a mis un mois avant de faire un nouveau gouvernement. Donc oui, il y a quatre ministres qui ont été battus aux élections législatives, donc ils vont partir, donc il va y avoir un remaniement. Et tu as raison. Il faut l'attente. Et effectivement, en coulisses, ça discute énormément et ça discutait aussi des postes qui allaient être pourvoir à l'Assemblée nationale. Maintenant que le gros, entre guillemets, est passé, je crois que le 11 juillet, les choses vont se décompter. Mais elle n'est pas fragilisée pour autant. Je ne comprends pas cette impatience, effectivement, de demander des têtes. Alors, vous avez l'extrême gauche qui demande les têtes à tout le monde. Et aujourd'hui, ils sont bien contents que la majorité présidentielle n'ait pas intervenu dans le débat et n'a pas voté. Mais sinon, tu as raison. Aujourd'hui, la NUPES a explosé à l'Assemblée nationale. Ils feront des coalitions de circonstances. Moi, j'ai jamais été favorable à ça, vous le savez. Mais force est de constater que le premier groupe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est celui du Rassemblement national.
Premier groupe d'opposition.
Politique, le premier groupe politique d'opposition réelle externe à l'Assemblée nationale, puisque la NUPES forme à eux un petit peu.
Messieurs, il nous reste 4 minutes justement avant de rendre l'antenne. Je voudrais quand même qu'on aborde ce dernier sujet qui a retenu notre attention dans les informés. On parle de plus en plus du grand retour du Covid, le Covid-19, ouais, avec une forte augmentation, messieurs, justement, des contaminations. Bon, alors, le gouvernement essaie de multiplier les messages, hein, évidemment, de prévention, je parle. Sauf que là, évidemment, on regarde que, plus personne ne respecte rien. Voilà, la question est très simple, c'est est-ce qu'il ne faut pas remettre les masques, notamment dans les espaces clos, dans les transports en commun, dans les lieux de... Bref, où il y a énormément de monde. Ménade, au Chénéa.
Les cas graves, Adil, c'est...
Comment ça?
Les cas graves, il faut regarder les cas graves.
Ah, les cas graves, j'ai compris, l'état est grave. j'ai droit à une clochette, lui. Hein.
Effectivement, les cas graves sont l'indicateur pour moi qui doit conditionner des mesures contraignantes de ce type-là. Alors moi, le masque dans les transports, je vais vous dire, c'est quelque chose que je garde, même en période dite, calme, tranquille, etc.
Ah, vous êtes précautionneux à ce point-là.
Non, dans les transports, c'est une bonne habitude, parce que, vous savez, au-delà du Covid, dans les transports en commun parisiens, il y a des études très sérieuses là-dessus. Je crois même que c'est Air Paris, sur les particules fines et autres, c'est pas très sain comme air à la base. Donc, à la limite, c'est une habitude que nous, en Asie, ils ont depuis très très longtemps, et pourquoi pas garder quelques bonnes habitudes du Covid. Moi, je suis très content de voir de plus en plus de gens se laver les mains, parce que faut dire qu'avant le Covid, parfois il y en a qui pouvaient oublier de se désinfecter. Alors dans le studio, en plus, je le dis.
Nous dans le studio en permanence. Hein.
On a du gel hydroalcoolique.
Tout le temps en permanence, hein, vous confirmez. Hein.
Et bonne distance entre nous.
Oui.
Et tout le temps.
Tout le temps.
Mais pour le coup, moi je suis content de voir les gens garder des bonnes habitudes. Donc les masques dans les transports, perso ça me dérange.
Et on a gardé les distances aussi. Hein.
Dans les autres lieux, ouais. Et ça, par contre, je crois que c'est pour quand vous avez des débatteurs un peu volubiles pour éviter qu'ils soient pas à portée de claque les uns des autres.
Non, mais va falloir s'y habituer, et puis on nous prépare tout doucement. Vous avez vu, tous les jours, on nous montre le nombre de cas qui...
Ouais, mais ça va pas gâcher nos traités, ça.
Alors, en tout cas, le mien, non, mais je peux vous assurer qu'au mois d'août, oui.
Au mois d'août, vous pensez vraiment?
Il faut pas flipper pour les réservations. Mais vous voyez déjà les tentes revenir devant les pharmacies. C'est déjà un premier signe.
Je suis pas sûr que ça gâche. Non, ça va pas gâcher.
C'est un business.
Ça va pas gâcher.
Oui, voilà, c'est ça aussi.
Non,
franchement, je suis pas sûr que ça gâche notre été. Arrêtez, Philippe, les
joyeux.
On vient de passer de sales moments. Vous trouvez pas que ça y est là, vous? Mais non.
Je sais, mais tout à l'heure, on parlait de la vaccination. Mais notre vaccin n'est plus à jour, en vérité.
Ouais, on a fait 6 mois a priori que effectivement il faut renouveler le vaccin. Mais pourquoi pas renouveler le vaccin? Mais
on va le faire à vitam aeternam, les amis.
Bah ouais, mais le vaccin de la grippe, il est là chaque année. Et puis c'est pas ça. C'est il faut regarder le taux de contamination, le taux de personnes qui décèdent.
Bon, pour les personnes les plus fragiles, oui.
Absolument.
Oui. Il faut le porter en permanence. Là, je vous l'accorde.
Le porter et se vacciner.
Se vacciner. Mais ça ne doit pas gâcher nos traités.
Ah, moi, ça ne va pas gâcher. Je pars en vacances.
Vous partez bientôt?
Alors, je pars demain et là, j'ai un coup de gueule
à passer. Ah, vous partez demain?
Ouais, j'ai un coup de gueule à passer parce que je remonte.
Vacances, dis donc.
C'est des vacances vraiment.
C'est quoi votre coup de gueule?
Alors, j'ai un coup de gueule à passer parce que je remonte le 5.
Ouais.
Délibérément, parce que je pensais qu'il y avait beaucoup de festivités par rapport au 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Visiblement, il n'y a rien qui se passe nulle part. Et je voudrais gueuler contre les associations, contre le consulat et contre l'ambassade. C'est moyen. rien. Le 6, j'ai un conseil régional et vous savez, Adil, je vous ai dit, hormis maladie, je veux avoir à la fin de mon mandat 100% de présence au conseil régional. Et le 7, j'ai un conseil municipal, donc je remonte. Et le 8, je redescends et je finis mes 2 semaines avec mes enfants et je reviens. Donc j'aurai que 2 semaines de vacances cette année. Voilà. Je tiens mes engagements.
Ah là 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 là, la bonne vacances, mon cher Philippe Nadjiboyaki. Bon séjour, hein, bonne vacances.
Et je pars pas loin, je suis.
On ne dira pas où vous allez précisément.
Si, je vais à la Seine-sur-Mer. J'irai peut-être à Marseille le 14.
Marseille,
le
c'est
14
beau,
juillet
Marseille.
Pour le défi.
Tiens, il y a Bilal qui rentre dans les studios.
J'ai dit, je l'ai
bonsoir
vu,
Bilalou.
Bonsoir messieurs.
Comment ça va bien?
Ça va très très bien. Zidane revient en premier plan pour le Paris Saint-Germain.
Quel menu pour ce soir, le menu?
C'est pas une fake news.
Le menu. Oui.
On va recevoir justement Sami Hassana, grand combattant de Muay Thai, champion du monde.
Ah tiens, on en parlait tout à l'heure.
Champion du monde justement.
Ouais, on y sera le samedi 9. Oui.
Ah ben ça c'est super ça. On va parler de quoi? De Tolisso. Il imite Lacazette à Lyon. On parle un peu de mercato. Les matchs sont terminés. Les droits télé. Et oui, c'est nos confrères de Canal+, qui rafle tout.
Le retour de Canal.
Non mais secret.
Retour de Canal+.
Secret sur la transaction.
Ouais. Merci à vous. Merci Bilal Nedman. C'est 20h-21h. Hein. Merci Philippe Nadjiboyaki.
Merci Adil.
À très vite. Hein. À la rentrée.
Ouais.
Bonnes vacances.
Bonnes vacances.
Bien mérité. Vous partez pas en vacances,
Je pars hors saison, moi.
Hors saison. Ménad, justement, au Généra, très bientôt.
À très bientôt.
À la réalisation, c'était Yanis. À demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien, les amis. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.